La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à La Quotidienne, mon nom est Michel Cloutier, je suis en compagnie d'Izzy Lévesque, comme à l'habitude. Bonjour Izzy.
Bien, bonjour.
Aujourd'hui, on est avec Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole, et Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour madame. À vous tous.
Je vois qu'Ordonne...
J'adore les bonjours tout mélangés comme ça.
Oui, d'Ordonne, on est en train de faire notre épicerie,
ouais,
de s'échanger les recettes.
Oui, ça sentait bon.
Il y a des journées comme ça.
Oui, puis il y a Michel qui nous parlait encore de son poulet puis de son
oui.
filet. C'est un filet de porc, c'est
filet
ça? Filet de porc qui a sauté dessus. Imaginez-vous donc.
À l'épicerie. Filet de porc qui saute dessus.
Il me saute dessus. Il me dit, achète pas. Non, tellement pas cher.
Non, c'est
parce
ça,
que c'est ça, il était en spécial. Là. Il était à 9 $ comme tu mentionnais hors d'onde.
Effectivement, il y a des spéciaux intéressants sur ce genre de produits-là. Est-ce qu'on parle d'épicerie aujourd'hui, Yannick, ou...
Pas nécessairement, mais ça peut, comme on va parler d'élevage laitier, on va peut-être reparler de consommation tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, puis on va parler aussi des journées agricoles dans Limoilou qui approchent. Il y a les deux journées qu'on connaît bien, le 14 et le 4 novembre. Mais en fait, on va parler surtout du 4 novembre, qui est maintenant devant nous, pour la fondue et fromage. C'est un peu pour ça qu'on parle...
Le 4 novembre!
Oui, le 4 novembre! Bien choisi, la date!
Et en fait, qui est à la fois, en fait, on en parlera tout à l'heure un peu plus longuement, mais des journées agricoles assez animées, assez intéressantes, je pense. Mais je vais vous emmener un petit peu en Europe avant, dans la première section de l'émission. C'est une journaliste, Emmanuelle Ducrot, qu'on a souvent reçue en quotidienne, 4-5 fois, je pense, quand on faisait nos quotidiennes télévisées. Et en fait, j'ai capté un petit extrait qu'elle a donné à Europe 1 cette semaine, où elle nous parle de l'élevage laitier en France. Je me dis, tiens, c'est intéressant.
Pour le cheptel destiné à la production laitière, les effectifs sont en chute libre.
Excusez-moi, c'est parti un peu vite. Mais je voulais vous faire le contexte. Parce que l'élevage laitier, on en a souvent parlé dans La Quotidienne, entre autres avec Étienne Fourmont aussi, qui est un producteur lui-même et qui fait beaucoup de plateaux de télé, mais qui est un producteur qu'on a été rencontré avec Michel en France. Et souvent, on a fait des topos sur comment ça va du côté de l'élevage laitier en France, pour faire des comparables avec ici. Et là, elle arrivait avec une information intéressante sur une chronique qui s'appelle « Voyage en absurdie ». C'est une chronique qu'elle fait régulièrement sur Europe 1 et je la trouvais un peu intéressante. Je vous la diffuse à l'instant.
Oh, c'est l'heure de votre chronique en absurdie. Hier à Cournon, près de Clermont-Ferrand, c'est ouvert le sommet de l'élevage. Si vous êtes dans le bovin, c'est the place to be. Mais l'ambiance est assez morose cette année à Cournon. Le ministère de l'Agriculture a annoncé hier un important plan de soutien pour le secteur. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, ça va de mal en pis pour ce secteur de l'élevage bovin français. Que ce soit pour les cheptels destinés à la viande, on dit les vaches allaitantes, ou pour le cheptel destiné à la production laitière, les effectifs sont en chute libre. À fin 2022, on comptait 17 millions de vaches en France, un nombre en baisse constante depuis 2015. 12,5% en moins sur 7 ans. Il faut retenir ce chiffre. En 30 ans, un quart des vaches à lait françaises ont tout simplement disparu.
Mais pourquoi?
Bien, le secteur traverse une crise économique, morale. Il subit des attaques sociales constantes qui rendent difficile à supporter un métier exigeant avec des rémunérations parmi les plus basses du monde agricole. Les éleveurs ont aussi dû affronter une flambée des coûts de production depuis 3 ans. Transport, énergie, alimentation, tout est plus cher. D'autant que les accidents climatiques ont bouleversé le modèle économique des élevages français ces quelques dernières années. Ce sont des petits élevages au regard de ce qui se passe ailleurs dans le monde et ils reposent essentiellement sur l'herbe et sur le fourrage qui est produit dans les fermes. Résultat, les éleveurs raccrochent, fatigués de manger de la vache enragée.
Oui, en plus, le bovin émet du CO2, il est donc mal vu. Est-ce que c'est pas finalement une bonne nouvelle pour le climat qu'on ait de moins en moins de vaches en France?
Ça, c'est un raccourci séduisant, mais c'est absolument faux. Il faut penser aussi aux conséquences économiques et écologiques du non-élevage. Ce que personne ne fait, exactement comme on ne l'a pas fait quand on a délocalisé notre industrie. D'abord, plus d'élevage, ça veut dire des prairies sur lesquelles l'élevage repose en France, qui disparaissent et qui sont remplacées par rien, parce que les trois quarts de nos prairies sont incultivables, elles deviennent des taillis. Or, ces prairies, ce sont des puits à carbone, ce sont des structurations de paysages et c'est aussi une gestion de l'eau à laquelle il faut dire bye-bye. Et puis, la décapitalisation du cheptel, ça ne s'accompagne pas de la même baisse de la consommation du lait et de la viande, qui ont même tendance à remonter un peu en France. La balance commerciale pour le lait s'érode, alors que c'était un de nos points forts. Et pour la viande bovine, c'est la bérésina. Le déficit commercial de la France en matière de viande a doublé en 2022. Ce qu'on ne produit plus, on l'importe. 23% en plus en un an pour les importations. Notre principal fournisseur sont les Pays-Bas. pas réputés du tout pour leur modèle d'agriculture durable.
Mais quoi, ça veut dire que la France, en fait, n'est pas plus vertueuse lorsqu'elle fait fondre ses élevages?
Ben non, elle est tout simplement en train de procéder à une délocalisation. Elle se contente de sous-traiter ses émissions de gaz à effet de serre, loin des yeux, loin du cœur. Et c'est même pire que ça. En fait, elle aggrave les émissions de gaz à effet de serre dues à l'élevage. Les chiffres de la FAO sont éloquents. Il faut les garder en tête. L'élevage bovin à la française, essentiellement à l'herbe, je le rappelle, ça produit 15,6 kg d'équivalent carbone par kilo de viande. C'est 27 kilos pour la moyenne mondiale, 135 kilos pour la viande brésilienne. Réduire l'élevage vertueux ici, pour le compenser par un élevage qui l'est beaucoup moins ailleurs, c'est une idée vachement bête.
Signature Emmanuel Ducrot, merci beaucoup Emmanuel.
Alors voilà, ça donne un peu le contexte. Bah d'abord, Izzy et Michel, vous ne connaissiez pas Emmanuel Ducrot. Michel Saint-Pierre, on l'avait déjà vu, donc on connaît un peu la dynamique d'Emmanuel Ducrot. Mais moi, ce que je trouvais intéressant dans sa chronique, c'est de revenir un peu sur les comparables. Parce qu'en fait, on entend souvent, en fait, nous, on a été voir en plus sur place comment se passait l'élevage laitier. Donc on a vu des choses quand même positives dans l'élevage laitier en France. Mais c'est des chiffres qu'elle a ramenés, en fait, en disant que finalement, on a perdu un quart des vaches laitières, en fait, en 30 ans. Et moi, je voulais voir un peu comment on voit ça par rapport à ce que nous, ici, ce qu'on a vécu, parce qu'on a quand même perdu beaucoup d'élevages laitiers, en fait, aussi.
Dans notre cas, nous, évidemment, les nombres de vaches et le nombre de fermes ont diminué. La production, elle, n'a pas diminué. Puis t'as l'interne, donc on ne va pas le chercher ailleurs.
Souvent, il y a les quotas qui vont avec ça. Je me dis, quand il y a une ferme laitière quelque part qui disparaît, il y a quelqu'un à quelque part pour racheter le quota et par le fait même augmenter sa propre production.
Ouais, puis tout ça amène des gens avec des entreprises laitières plus grosses, plus spécialisées.
Exact.
Ils vont chercher... une quantité de plus par unité tête, c'est le cas de plusieurs gros producteurs qui ont, par exemple, introduit des robots avec 3 lactations par jour et tout et tout. Donc, ça, c'est notre phénomène à nous, mais on n'est pas en perte de volume.
Non, mais faut spécifier aussi que Michel nous parlait de la gestion des quotas, spécifier qu'en France, il n'y a plus de quotas, en fait, depuis 95. Ça. Donc, en fait, quand tu vends tes vaches, tu vends tes vaches, tu ne vends pas de l'air.
Ce qu'on peut observer en France, parce qu'on y était il y a un an tout juste, à cette période-ci d'ailleurs, c'est qu'il y a... Il y a des producteurs qui sont dans du lait spécifique, qui vont produire un lait avec des caractéristiques. Il y a un cahier de charge X pour produire un fromage. C'est surtout ça là, qu'on a vu l'an passé. Puis il y a aussi la production de lait que j'appellerais générique, celui qui est du lait...
Le lait qu'on boit sur nos tables.
Oui. Et celui-là... Avec le modèle de ferme français, sans être un expert, mais je suis quand même travaillé assez là-dedans, assez pour
oui,
avoir
je pense que tu es correct pour dire que tu es un
avoir
expert.
Avoir une petite opinion. Ce qu'on peut voir, c'est que le modèle français n'est pas concurrentiel avec celui des Pays-Bas. Les Pays-Bas, qui est maintenant devenu beaucoup leur fournisseur de lait générique, non spécifique.
Parce que ce que ne dit pas Emmanuel Ducrot dans la chronique, en fait, c'est qu'évidemment, quand elle dit les Pays-Bas qui ne sont pas forcément la norme environnementale.
Oui, non, c'est ça, ouais.
En fait, je comprends ce qu'elle défend là, c'est la vache française au pré qui broute.
Voilà.
Ce qu'on a vu d'ailleurs en France, qui est réel, ce qui existe, un peu comme en Suisse. Et en fait, à côté, il y a des gens qui ont fait autrement, qui ont choisi une autre formule qui ressemble peut-être plus à notre formule ici, qui est de dire on met plus de vaches dans des étables en stabulation libre, puis go, on fait de la production laitière. Et effectivement, c'est ce qui crée une perte. Parce que la France n'a jamais embarqué dans cet élevage intensif, en fait.
Donc,
moi, je pense que c'est là, en fait, qu'il y a
puis aussi, la race, c'est pas la même non plus. Alors, il y a davantage de Holstein, un Pays-Bas, d'ailleurs, c'est son pays d'origine. Qui est une grosse vache qui produit beaucoup de lait. Alors, quand tu regardes le nombre de vaches, forcément, ça vient jouer le nombre d'unités. En France, on a une variété de vaches qui sont, d'abord au pâturage, comme tu dis, mais aussi qui ne sont pas nécessairement des races les plus prolifiques en termes de production laitière.
Par contre, le point qu'elle met de l'avant, qu'on peut difficilement contester, c'est le fait que les vaches au champ, ça entretient des prairies, Dans un air actuel où on s'inquiète beaucoup de l'environnement, on peut se poser la question si finalement, parce qu'on avait ce discours-là récemment dans la série qu'on fait avec MaTV sur les fromages, en fait, les fromages du Québec, où on reçoit les transformateurs laitiers qui viennent nous expliquer pour certains pourquoi, je pense à Fromagerie L'Ancêtre, entre autres, à la station, à des gens qui vont, L'Ancêtre, entre autres, qui met ses vaches au champ, qui nous expliquent pourquoi, puis il y a un côté environnemental aussi à ça. Bon, quand tu as dit, Emmanuel Ducrot, c'est genre bien retenu le chiffre, quand tu as dit en France, c'est, selon la FAO, c'est 4,6 kg carbone par kilo de viande. Tu as fait le comparable avec le Brésil, viande qu'on achète quand même du Brésil, même ici, 135 kg carbone. Donc en fait, ça veut dire quand même que le choix qu'on fait dans l'élevage, plus ou moins intensif, a un impact sur l'environnement.
Mais
c'est là, en fait, où peut-être ce que passe comme message, c'est qu'il y a certains pays qui parlent peut-être des deux côtés de la bouche, dans le sens qu'on veut faire tout ce qu'il y a de plus durable. L'équilibre est difficile.
Elle a mentionné aussi, puis ça m'a fait sourciller un petit peu, puis j'aimerais ça savoir, en fait, de comprendre. Elle a parlé d'attaque sociale.
Oui, ben c'est parce que ça fait référence, ben entre autres, Étienne Fourmont, qui est producteur laitier, qui est YouTuber et qu'on avait reçu plusieurs fois, nous en avait parlé. Ben lui-même, il a été tagué à sa ferme. En fait, c'est que il y a des associations, en fait, je pense que c'est L214 en France, entre autres, qui s'attaquent à l'élevage. Ils peuvent rentrer dans un élevage.
Des extrémistes green,
où ils rentrent dans les élevages faire des films, démontrer le côté intensif des élevages. Ouais. Et en fait, ils ont un côté excessif dans leurs actions, parce qu'ils sont sur des territoires privés. Ils nuisent beaucoup à l'image publique des producteurs, parce que finalement, ça embarque dans l'esprit du consommateur que finalement le producteur c'est juste des pas bons qui font juste entretenir l'élevage intensif. Il y a toujours une question de trouver l'équilibre entre manger des produits et élever de façon la plus bucolique possible. C'est ce qu'on aime bien voir sur les petites boîtes. Même ici, on voit ça sur les petites boîtes des œufs. Je ne suis pas sûr que les œufs soient si bucoliques que ça. On aime bien avoir des images bucoliques sur les œufs qu'on achète. Mais en même temps, il y a aussi une réalité.
Mais dans les faits, oui, c'est produire, ça. Hein. Oui.
Les poules en basse-cour, il n'y en a pas beaucoup, là. C'est ça.
Oui, on a pourtant on a des belles boîtes, les poules en liberté.
Ben oui, complètement, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on aime mieux avoir cette espèce de mensonge-là qu'on voit et qu'on se dit on mange des œufs. Et dans les faits, on le sait là, que ça se fait en production de masse quand même. Là,
oui, mais elles sont en liberté
dans leur regard.
C'est pas faux, là, ce qui est écrit. Ils sont en liberté sur parquet.
C'est ça.
Ils sont pas en liberté dehors. Non. Mais ceux qui font des poules, des œufs bio, eux autres, ont un cahier de charge qui les oblige à faire.
Oui, oui, oui.
Avec une base courte. Donc, c'est des choses différentes.
Il reste que, oui, de façon générale. Ouais.
Mais il reste que, ta question, les mouvements en France sont beaucoup plus...
Ils sont plus forts qu'ici.
Nous, on a vu quelques événements comme ça, surtout à l'égard du porc. Il y a eu quelques intrusions dans des fermes porcines et, évidemment, il y a eu même des poursuites de ce côté-là parce qu'il y a des dommages que tu peux causer avec ça. Mais c'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Il n'y a pas un groupe organisé qui vient dire les vaches attachées, c'est épouvantable, sont malheureuses.
Oui, non, c'est ça, on n'a pas ça ici.
Non, c'est plus les chevaux ici qui connaissent ça, les chevaux urbains qui font des tours de calèche,
oui, là,
qui connaissent des phénomènes un peu similaires.
Sur les chevaux urbains, justement, moi j'ai un avis là-dessus. Moi, je suis très en désaccord avec ce qu'a fait la mairesse Plante à Montréal. Parce que oui, je comprends qu'on a dit il y a quelques chevaux qui sont morts sur place parce qu'ils n'avaient pas été hydratés, parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Mais au final, c'était très chaud aussi, mais au final, les chevaux devraient encore, selon moi, exister au centre-ville s'il y avait en fait un entretien des écuries proches, de l'abreuvoir, etc. Ce qui ferait en sorte qu'ils n'iraient pas à l'abattoir. Parce que la plupart des chevaux qui ont été enlevés, ils sont partis à l'abattoir.
Oui, il y en a resté quelques-uns.
Exactement. C'est assez bucolique de penser que quand le cheval a terminé de se promener en ville, on l'envoie gambader dans les champs. Sauf la réalité de l'animal n'est pas comme ça. C'est des animaux qui ont été stimulés constamment dans un environnement urbain. Donc, lorsqu'ils se retrouvent à la campagne et qu'ils ne sont pas stimulés comme dans l'environnement urbain, la réalité, là, c'est qu'ils meurent par eux-mêmes si on les fait pas abattre, ils deviennent malades. Ils ont toutes sortes de problématiques qui sont reliées à un stress de ne plus être constamment stimulé comme dans l'environnement urbain. Puis on pourrait peut-être à un moment donné avoir des spécialistes qui nous en parlent.
Raison. Les chevaux qui sont stimulés jeunes, d'ailleurs, aiment beaucoup travailler. Ils aiment forcer, ils aiment tirer. Et ils sont... ça se voit, là. J'ai eu des expériences du genre. Ils sont, ils sont heureux quand tu les amènes vers l'attelage et qu'ils vont travailler.
Exact. Pensez à un animal domestique, votre chien, tous les jours, vous jouez avec, puis tout à coup, arrêtez complètement de jouer avec, vous allez voir sa réaction. On fait une pause, on revient dans un instant.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélile, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Et nous voilà de retour à la quotidienne. Je vous rappelle qu'on est avec Yannick Patelier, éditeur de la vie agricole, Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon, ma co-animatrice Izzy Lévesque. Et avant la pause, on était dans les fermes laitières, mais là, on s'en va ailleurs. On s'en va à un endroit qui a peut-être déjà eu des fermes laitières, je crois, sur le territoire il y a très, très longtemps.
Tu penses?
Mais qui sont un peu moins présentes aujourd'hui. On va parler de l'activité dans Limoilou.
En tout cas, il y aura les vaches. Ça fait longtemps.
Je ne sais pas si Michel Saint-Pierre a une historique du terrain, mais...
non, celui-là, là, je pense que ça date de...
Il y a très longtemps. Alors, on va parler de notre activité dans Limoilou.
Oui, mais il y a encore des vaches dans Limoilou, finalement, grâce à nous.
Oui, ben on a vu ça le week-end dernier. Là.
Oui, et le 4 novembre, ça sera une journée à peu près identique sur le thème fromage et fondue. Et pour faire un topo rapide comme ça des journées agricoles de Limoilou, quelque chose qu'on a lancé avec la Société de développement commercial de Limoilou et la vie agricole, c'est de permettre aux gens de mieux connaître l'agriculture, de mieux connaître, comme dit Michel, la chaîne alimentaire, de comprendre que ce que tu achètes à l'épicerie, ça vient de quelque part. Donc pour faire ça, ça prend de l'information. C'est pour ça qu'on met des kiosques, que ce soit ceux des céréales du Québec parce qu'ils parlent de production de grandes cultures, que ce soit Première Moisson parce qu'ils parlent du pain, que ce soit l'Institut Jean Garon parce qu'ils parlent de zonage agricole ou parce qu'ils parlent des pesticides. Tous ces gens-là ont de l'information. Tous ces gens-là sont capables de vous donner de l'information et de façon plutôt conviviale. Puis pour que ce soit très convivial, ce qu'on fait, c'est qu'on amène aussi des kiosques plutôt sympathiques. D'abord, il y a de la musique. Il y a la boombox de Michel Cloutier qui est là, qui met de la musique, qui met de l'ambiance. Et il y a Izzy qui fait de l'animation avec les enfants. Et il y a des animaux. Et ça, c'est le côté intéressant qu'on a réussi à faire. C'est qu'on voulait que les gens soient réellement en contact avec les animaux. Donc, il y aura le 4 novembre encore, notamment des vaches. Alors, il y aura Justine, la vache, notre fausse vache qui vient de rendre de lait. Elle se promène aussi dans Limoilou pour faire des selfies avec vous. Mais il y a aussi des vrais animaux.
Il y a des gens qui me rappelaient lors de la journée du 14 octobre dernier que l'une des dernières fois qu'ils ont vu des animaux tout près comme ça dans le secteur, c'était lorsqu'on avait Expo Québec sur le territoire d'Expo Cité.
Oui, c'est vrai.
Hein? C'était une vitrine, ça, qui permettait aux gens de la ville de voir...
Rappelle-toi, Expo Québec, Michel, je pense, de mémoire, tu étais animateur à Montmagny quand Expo Québec est arrivé à Montmagny.
Est arrivé à Montmagny, oui. Effectivement. Donc, j'ai connu Montmagny aussi, mais évidemment, ayant grandi à Québec, j'ai connu Québec avant. Là.
Oui, moi aussi, mais le lien que je voulais faire, c'est que quand Expo Québec s'est terminé à Québec, et qu'il y a eu toute la discussion à travers les associations agricoles, de décider où irait la future expo provinciale. Ouais. Il y a eu une bataille, d'ailleurs, entre Saint-Hyacinthe et Montmagny, je me rappelle. J'étais éditeur de la coopérative de presse à l'époque. On avait mobilisé beaucoup de gens pour que l'exposition s'en vienne à Montmagny. Beaucoup de gens la voulaient à Saint-Hyacinthe. Avant, j'avais un regard plus local, on va dire, avec un regard plus provincial. Peut-être qu'elle aurait dû atterrir à Saint-Hyacinthe, parce que finalement, à Montmagny, ça a été un succès mitigé. C'était un raté d'abord la première année, assurément. Puis même les deux autres années, ils n'ont pas relevé le déficit, c'est jamais relevé. Et ça s'est terminé là,
en fait. Oui, et un des gros problèmes, c'est qu'à Québec, on était en mesure d'attirer les gens d'autour de la région à venir. Alors qu'à Montmagny, on n'a pas eu ce pouvoir d'attraction-là, parce qu'il y avait tout l'aspect de ce qu'on retrouvait autour. Tu sais, partir de la Beauce, partir de Rivière-du-Loup, s'en venir dans la ville de Québec, l'expérience était fort différente que d'aller à Montmagny.
Il y a un côté attractif.
Il y avait un côté attractif, effectivement, ouais, parce que là, on en profitait pour aller faire un tour dans les centres d'achat, on en profitait pour aller faire un tour au village vacances Valcartier, on en profitait pour aller faire un tour dans les autres attractions de la ville de Québec. En même temps, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire à Montmagny?
C'est d'ailleurs la réussite du CIMAC, hein, le Salon de l'ingénierie du Québec, qui a lieu tous les mois de janvier. Cette année, 2024, ça sera premier week-end de février. Et la réussite de François Comeau à Québec de faire son salon de machinerie, il tient beaucoup, il le dit lui-même, il tient. Bon, évidemment, la machinerie qu'il présente, j'ai la force qu'il représente sur le plan médiatique aujourd'hui au niveau de la machinerie, mais ça vient aussi de la ville de Québec, parce qu'il y a tous ces attraits récréo-touristiques à Québec qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est un peu une erreur, selon moi, du maire Labeaume. Tiens, j'avais critiqué cette semaine la mairesse Plante. Ben là, c'est le tour de Labeaume. Labeaume a fait une erreur d'envoyer au Québec ailleurs.
Et surtout, ça a été une...
On a donc des mauvais maires.
La perte... ça a surtout été la perte, je trouve, moi, d'une belle fenêtre pour les agriculteurs. Parce que pour beaucoup de gens... Vous savez, dans les dernières semaines, on parlait de l'agriculture, puis les citadins. Je disais, bon, souvent, les citadins, leur lien avec l'agriculture, c'était voir Fardoche dans Passepartout. Mais pour les gens de la ville de Québec, c'était Expo Québec aussi.
Ah, tout à fait. D'abord, il faut rappeler, Expo Québec, c'était d'abord une exposition agricole. D'abord.
Exact.
Alors, on oublie les dernières années, les manèges ont pris pas mal plus de place, puis le casino et tout. Mais d'abord et avant tout, c'était il y a une centaine d'années probablement, la finale des expositions qui se tiennent encore. Bon, et pour lesquelles il y a des concours d'animaux. Et ça commence, la première exposition est à Ormstown. À chaque année. Ça, c'est dans le sud du Québec. Là, et c'était traditionnellement, ça commençait par là. Puis il y avait donc un circuit en termes calendrier d'activité qui faisait qu'à la toute fin, il y avait eu une compétition pour les animaux. On parle des vaches, mais c'était tout pour le reste également, pour les meilleurs béliers du Québec, puis le lapin le plus prolifique, puis le mureau. Tous les animaux, où à peu près, il y avait des concours. Et la finale, bien évidemment, on parlait plus souvent des vaches, parce que ceux-là, ils s'en allaient par la suite à la Royal Winter Fair à Toronto, puis à Wisconsin, là, c'est les meilleurs. Mais c'était ça, une activité. Alors, et ça, on l'a perdu. C'était un drôle, bel endroit pour ramener la ville à la campagne, pour avoir des touchés aux animaux, parce qu'on y allait. Les premières, quand j'étais jeune, on y allait, l'exposition, on allait voir c'était dans les tables, c'était ouvert, tout ça, là. T'étais pas dans un monde fermé. Le maire Labeaume, faut croire qu'il n'y a pas la fibre agricole.
Hein. C'est cette vision, d'autant plus.
Il avait la fibre nordique à l'époque.
Oui, et tout ce qu'il y avait autour, là, ça l'amenait en même temps un beau mariage entre la ville et la campagne, parce qu'on avait aussi plusieurs pavillons. Je me souviens de ceux de l'industrie, où là, on découvrait des choses technologiques qu'il y avait à Québec. On avait les militaires qui étaient là avec probablement le plus grand kiosque que j'avais jamais
c'est
vu.
Vrai.
On en apprenait sur les forces armées. On avait les policiers qui étaient là avec tout l'équipement, les autopatrouilles. Ça permettait vraiment de découvrir beaucoup de choses. Et moi, je considère, depuis que c'est parti, que ça a vraiment été une grande perte. Pour les gens de Québec, mais aussi pour les gens qui y participaient.
Oui, une perte en matière de, comment dire, de mieux connaître, des choses qu'ils ne voient pas au quotidien.
Exact.
Et rencontrer des producteurs agricoles qui étaient là. Puis, bon. Alors, non, je ne pense pas qu'on va faire l'histoire, mais il reste que c'était une belle occasion. Et ça nous amène à dire que dans Limoilou, c'est une occasion aussi.
Exact.
Comme celle-là, il n'y aura pas évidemment l'envergure qu'avaient les expositions d'animaux, mais ça va permettre aux gens de voir d'une part des machineries, c'est toujours attractif.
Oui.
Mais les machineries, là, ça marche toujours, mais aussi quelques animaux là, qu'on va pouvoir voir de près. Et surtout parler. Puis, moi, j'ajouterais quelque chose. Pourquoi le Limoilou? Je ne sais pas si la question a été posée au départ, parce que pour moi, ça veut dire beaucoup un quartier en mutation, en transformation. Des familles, de jeunes familles qui occupent de plus en plus Limoilou, et donc des familles avec des enfants. Donc, c'est une belle façon de s'approcher de cette clientèle-là, là. Je dis ça par rapport à, je sais pas, moi, à Saint-Sacrement, où je reste ouais. là, ou chez les quartiers.
Il y a moins d'enfants.
Pas mal moins d'enfants.
Alors, du moins, ils sont grands. C'est des grands enfants.
Il y a plus de chances d'avoir sur le trottoir à Limoilou qu'à Saint-Sacrement.
Ouais. Izzy, justement, en parlant d'enfants, donc c'est toi que les enfants vont venir rencontrer.
Oui, on va avoir un espace jeu où ils vont pouvoir venir s'amuser. Et puis, bien évidemment, il va y avoir de la musique. Alors, on va danser. Ça, c'est certain, certain, certain. Mais oui, il va y avoir un rallye. Ils vont avoir à répondre à des questions, justement. Puis... ils vont en apprendre un peu plus sur l'agriculture, mais on va s'amuser.
C'est surtout ça qui est l'important cette journée-là, c'est de voir à s'amuser, voir un rapprochement ben oui. entre une découverte, là, pour, autant pour les citadins, là, de venir voir qu'est-ce qui se fait au niveau de l'agriculture et en ben même temps pour les gens de l'extérieur qui sont peut-être des agriculteurs ou des producteurs, de venir faire un tour dans Limoilou et voir ce qui se passe là et partager avec les gens.
Puis je pense qu'ils vont voir à quel point que l'agriculture est peut-être beaucoup plus près d'eux qu'ils le pensent. Oui.
Plus souvent dans notre environnement, effectivement. Mm-hmm. Bien, là-dessus, on va souhaiter que ça inspire des gens, qui sait, peut-être on retrouve quelque chose, une foire d'agricole plus grandiose à Québec. Hein?
C'est peut-être le début de l'exposition, de la grande exposition
de Limoilou.
On en parlera avec le maire Marchand, effectivement. Merci. Voilà, ça complète cette émission de La Quotidienne. Là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve à la prochaine.
À la prochaine, Thomas.